Vous écoutez France Culture.
Le silence des théâtres, c'est comme un lac. Le silence de l'amour, c'est comme un lac aussi.
Bonsoir à vous, nous sommes très contents de vous retrouver chaque dimanche un peu plus tôt dans la soirée puisque cette saison Changement de décor ouvrira ses portes à 20h30 pour vous permettre de découvrir celles et ceux qui font le théâtre aujourd'hui. Ce soir, pas de représentation à l'affiche de l'émission, mais au contraire une absence de représentation. Celle des femmes, les grandes oubliées du spectacle vivant. La place des femmes, que ce soit au poste de direction ou de création, est encore beaucoup trop minoritaire. Changement de décor a donc décidé pour sa première de tirer la sonnette d'alarme.
Qu'allons-nous voir et entendre quand nous allons assister à un spectacle dans le secteur subventionné ? 97% des compositeurs dont on entend la musique dans ces établissements sont des hommes. Soit 3% de femmes.
94% des orchestres programmés dans ces établissements sont dirigés par des hommes.
Soit 6% de femmes. Les femmes atteignent un meilleur pourcentage au son, 12%.
85% des textes que nous entendons quand nous allons au théâtre ont été écrits par des hommes.
Lorsqu'en 2006 et 2009, le ministère de la Culture a demandé à ce que soit réalisé un état des lieux sur la parité dans le spectacle vivant, des chiffres atterrants sont sortis. Le rapport Rennes-Pratt, du nom de son auteur, a fait l'effet d'une bombe. Quelques années plus tard, la situation n'est pas meilleure. En atteste par exemple la saison à venir de l'Odéon Théâtre de l'Europe, où sur 14 projets, on compte 14 metteurs en scène et 14 auteurs hommes. En témoigne aussi l'ironique plaquette, saison 2012-2013, éditée par la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, très impliquée dans le combat et qui a titré sa plaquette « Théâtre, musique, danse, où sont les femmes ?» Point d'interrogation. Qu'en est-il donc de la parité dans le spectacle vivant? C'est à Avignon cet été que nous avons enregistré ce changement de décor spécial. Avec nous jusqu'à 21h, Mai Bouada, responsable de la fédération HF Hommes-Femmes Île-de-France, Geneviève Fraisse, philosophe et auteur de La Fabrique du Féminisme, son dernier livre qui est paru aux éditions Le Passager Clandestin, et Myriam Marzouki, metteur en scène. La culture est-elle un territoire machiste? C'est la première question de ce débat et elle s'adresse à Geneviève Fraisse qui réagit au mot machisme.
Ce type d'adjectif ne veut pas dire grand-chose. La question peut se poser de façon multiple. La question peut se poser au titre de la présence, des pourcentages, de ce que un rapport montrant l'absence des femmes comme auteurs, comme ayant disons la responsabilité des lieux du théâtre, etc., donc montrerait qu'elles ne sont pas présentes. La deuxième chose serait de voir qu'elles ne sont pas comme auteurs représentées. La troisième chose serait les images qu'on donne de la création des femmes. Et là, je vous ai apporté quelque chose d'assez joli. Qui était dans un journal que tout le monde connaît, puisqu'il est distribué devant tous les théâtres, en tout cas moi on me le distribue toujours, qui s'appelle La Terrasse. Au mois de mai, La Terrasse fait une page sur le théâtre de l'Ouest parisien, qui a une deuxième édition du festival Seul en scène, qui s'appelle Le Royaume féminin à l'honneur. Et là, vous avez une sorte d'explosion d'archaïsme, puisqu'il y aurait un éternel féminin qui serait incarné par quatre femmes au demeurant extrêmement remarquable, je ne vais même pas les citer puisque je voudrais citer uniquement le chapeau que peut faire ce journal, incarne l'éternel féminin sous toutes ses formes et ça serait un point de vue féminin sur le monde. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas du retard, ce n'est pas une absence des femmes sur la scène, c'est simplement un éternel féminin. L'éternel féminin, c'est Goethe. Donc on est en 2012 et on me parle de cet éternel féminin qui a été mis en cause par la fin de la métaphysique, par tout ce que la philosophie peut avoir produit depuis deux siècles. Et là, on me sort des vieilles images qui normalement ont disparu, que les philosophes ont déconstruit. On est même arrivé avec le terme de condition humaine au milieu du XXe siècle, justement pour en finir avec l'éternel féminin. On a parlé de condition féminine, terme que moi, je critique énormément par ailleurs. Donc on aurait avancé de l'éternel à la condition, condition humaine, condition féminine, terme lui-même qu'on peut mettre en cause. Et là, vous avez un archaïsme tranquille. Donc en mai 2012, dans ce journal que tout le monde va lire, et ça se passe à Paris, et on va incarner l'éternel féminin. Donc quelle est cette espèce de tréfonds archaïque qui devrait représenter ce que les femmes peuvent apporter au théâtre aujourd'hui, au début du XXIe siècle? Donc, j'ai pas besoin de parler de machisme, j'ai pas besoin d'employer des mots qui utiliseraient le langage d'une politique et d'une critique de la politique. Je veux simplement vous mettre à jour cette tranquillité de l'archaïsme qui existe dans la représentation du masculin. J'ai pas besoin d'aller chercher les mots stéréotypes, les mots normes, tous les mots comme ça à la mode pour dire ce qui serait mal dans la représentation masculine machiste. Vous voyez, on est tranquillement là, dans le point de vue féminin sur le monde. Quel point de vue féminin sur le monde? Ça serait ça, la création, la production de ce que les femmes aujourd'hui écrivent? Ben non, pas du tout.
Myriam Merzouki, vous avez pointé déjà ici à Avignon justement la pénurie, l'absence des femmes. Je ne sais pas si l'édition 2012 vous a inspiré la même réflexion. Je pense que la programmation générale des théâtres parisiens et des théâtres français pourrait vous inspirer aussi les mêmes réflexions. Vous en pensez quoi justement de cette édition 2012 qui sera derrière nous au moment où l'émission va être diffusée, de ce point de vue-là?
En 2012, c'est vrai qu'à Avignon, on a eu la possibilité de voir des spectacles écrits par des femmes, mis en scène par des femmes. Et je pense que cette évolution, elle marque, elle est le reflet que la question de l'égalité homme-femme dans la culture, le spectacle vivant et le théâtre est une question qui avance, qui progresse. Je crois qu'il y a quelques années encore, au fond, cette absence des femmes faisait l'objet d'une indifférence absolue. C'était au fond une question absolument, un phénomène absolument visible, mais en même temps recouvert par le fait que le regard ne se portait pas sur ces critères-là. Et puis ensuite, peut-être que la question a suscité une forme d'ironie, d'amusement, avec au fond cette espèce de sous-entendu que la revendication en faveur de l'égalité des femmes et des hommes, à la fois en tant que créateurs, mais aussi à la tête de la direction des lieux, pouvait ouvrir la voie en France à une revendication de type communautaire. On sait bien à quel point en France, on a en grande partie justifié la domination des femmes par une sorte d'universalisme républicain abstrait. Argument qui nous revient encore souvent avec l'argument selon lequel un créateur est d'abord un créateur avant d'être un homme ou une femme. Or, nous, notre combat, peut-être pour ma génération, mais aussi en tant que militante du mouvement HF, n'est pas du tout un combat en faveur d'une création féminine. Et je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Geneviève Fray, c'est-à-dire que nous, ce qu'on ne souhaite absolument pas, c'est d'avoir des focus sur l'écriture féminine, d'avoir des temps forts sur les femmes qui réfléchissent sur le féminin. Moi, en tant que metteur en scène, je ne me positionne absolument pas en tant que femme qui réfléchirait à la condition des femmes et qui créerait pour les femmes. Ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, la question devient une question politique légitime. Je pense que le fait d'avoir aujourd'hui un gouvernement paritaire, d'avoir une ministre de la Culture qui a dit encore ce matin que désormais... Ce matin en Avignon, que c'est un sujet important et même la priorité du gouvernement. Je crois qu'au fond, derrière cette question de l'égalité des hommes et des femmes dans la culture et le spectacle vivant, se pose très concrètement la question du rapport entre le théâtre et le pouvoir. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la spécificité de chaque pratique artistique, mais fondamentalement, créer un spectacle, monter une œuvre de théâtre, c'est faire un acte politique. En interne, d'abord parce que mettre en scène, c'est un acte de pouvoir vis-à-vis de son équipe. Et mettre en scène, c'est d'abord aussi produire. Et produire, c'est un acte politique, puisque nous sommes en permanence dans une discussion avec les tutelles, avec l'État, avec les collectivités, avec les partenaires de diffusion et de production. Et ces deux rapports nous montrent que dans les années 70, il y a eu toute une génération de metteurs en scène qui se sont littéralement évaporés. Donc aujourd'hui, pour nous, qui sommes créatrice. La question est de savoir si nous allons compter sur notre chance ou notre génie singulier ou si nous allons constater avec lucidité qu'il y a des mécanismes structurels qui font que nous devons aujourd'hui exiger qu'il y ait des actes de volontarisme forts qui mettent en branle ces mécanismes, qui les déploient, qui les analysent et qui essayent de comprendre et d'agir. Pourquoi est-ce qu'on arrive à un si faible nombre d'auteurs femmes, de metteurs en scène femmes et de femmes qui dirigent des lieux?
Alors Geneviève Fraisse, vous étiez à Avignon il y a 2 ans,
oui,
pour parler de ça, pour parler de la parité justement. Et vous aviez dit à ce moment-là que le fait qu'un débat comme ça puisse avoir lieu à Avignon, sous les fenêtres des directeurs, hein, au cloître Saint-Louis, oui, était un événement. 2 ans plus tard, pour vous, revenir parler de la parité à Avignon, c'est quoi? C'est un acte qui se pose?
Alors d'une part, pour moi, ça veut dire que c'est une difficulté, puisque au fond, il y a 2 ans, c'était témoigner.
Oui.
Si je reviens en me disant que ça me met devant des responsabilités plus grandes, que c'est pas seulement un soutien, ça veut dire c'est plus qu'un soutien, ça demande une réflexion plus approfondie. Pour rebondir sur ce qu'a dit Myriam, je partirais dans 2 directions à partir de ce qu'elle vient de dire. La première, pour prendre la deuxième partie de son intervention, serait de dire que cet acte de création, c'est un acte pour les personnes de théâtre qui sont à la fois au niveau de l'écriture comme au niveau de la mise en scène. C'est un acte qui est du rapport entre, effectivement, le théâtre et le pouvoir. Mais il ne faut pas oublier la dimension qui est celle, je dirais, de la jouissance. Hein, c'est-à-dire, il y a une grande jouissance à produire. C'est ce que je disais déjà il y a 2 ans dans mon intervention. Il y a une grande jouissance à écrire, une grande jouissance à mettre en scène. Et c'est la jouissance qui est contestée aux femmes. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et redire. Et si je reviens aussi aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est dans cet espace du spectacle vivant qu'en ce moment, quelque chose de l'égalité entre les sexes se joue. Donc c'est très très important. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, à propos de la parité. Soyons clairs, laissons tomber la question d'un enjeu qui irait de travers sur la question de l'universel ou pas de l'universel. Il n'y a pas de débat philosophique à avoir sur cette question-là. La parité est un outil pour faire de l'égalité. La vraie question philosophique est celle de l'égalité. Elle est déjà bien assez difficile. Moi, je me suis engagée philosophiquement sur cette question de l'égalité depuis très longtemps. Je la trouve difficile, je la mène tant bien que mal depuis longtemps, et je la trouve difficile. L'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte, et j'ai l'habitude de répondre à ceux qui me disent « on a les textes, laissons faire les choses ». Non, il faut produire de l'égalité, et l'égalité ne se produit pas sans contrainte. La parité est un instrument pour faire de l'égalité. On n'a pas à discuter si ça va faire trop de ceci ou trop de cela. Le débat philosophique qu'il y a eu pour le politique à la fin des années 80, au milieu, puis à la fin des années 90, était, je vais être provocatrice, inutile. Moi, je disais, c'est vrai en pratique et faux en théorie, ce qui est une inversion d'une formule kantienne bien connue, parce que la question de la parité, c'est celle de l'outil, c'est celle de l'instrument, ce n'est pas celle d'un débat philosophique. Donc, faisons confiance à tout ce qu'on a fait déjà à propos du politique, importons-le dans d'autres domaines, c'est un outil, on s'en sert. Oui, c'est pas un outil parfait, on le sait. D'ailleurs, on le voit en politique, ça avance de façon brinque-ballante. Un coup du côté du gouvernement, c'est de la nomination. Un coup du côté de la représentation, ce sont les élections. On voit que ça ne marche pas si bien que cela et que ça avance pas facilement. Mais voilà, on force les choses. Il faut de la volonté politique. Mais, chère Myriam, on ne va pas s'ennuyer à refaire du débat philosophique là-dessus. En revanche, mais je sais que vous êtes d'accord pour le clore. Mais en revanche, sur la question, où est le rapport entre théâtre et politique? Où est le pouvoir et où est la jouissance? Parlons-en, parce que là, il va falloir parler d'écriture et il va falloir abandonner les fameux archaïsmes qui ne sont ni des stéréotypes, ni des normes, qui sont là encore des débats philosophiques qui m'importent peu. Excusez-moi d'être un peu longue, Joël. Mais en revanche, ces archaïsmes qui sont ceux qui font que cette question des sexes serait anhistorique et atemporelle. Ça, pour moi, c'est un enjeu philosophique de mon point de vue important.
Mais malgré tout, est-ce qu'il peut y avoir une exemplarité justement du politique sur ce qui se passe dans le spectacle vivant? On a la parité au gouvernement, il y a une ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui actuellement est très attentive au processus de nomination dans les centres dramatiques nationaux et justement qui se pose beaucoup de questions sur le fait que des femmes n'arrivent pas dans ce qu'on appelle les shortlists, hein, et donc elles bloquent effectivement ces nominations en cours dans les CDN. Pour vous, Mé Bouada, qui êtes membre active, hein, et présidente de cette association HF qui maintenant commence vraiment à bien rayonner, à bien contaminer tout le territoire français. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut faire levier, ce qui se passe actuellement au niveau de la politique?
Ben oui, bien sûr. Je pense qu'il faut, pour resituer un petit peu le mouvement HF, je pense que c'est important parce que, disons que le mouvement HF, c'est une fédération maintenant interrégionale, hein, qui est née de 8 collectifs et associations sur tout le territoire français. en, disons maintenant en 2011, suite au fameux rapport Rennes-Pratt dont parlait Myriam tout à l'heure, c'est-à-dire en 2006 puis en 2009, deux rapports commandités par le ministère de la Culture, donc c'est une initiative du ministère, pour faire une étude sur l'état des lieux dans le milieu de la culture, spectacle vivant. Ça, c'est très important, parce qu'on parlait du spectacle vivant. Et les chiffres qui sortent de ce rapport font l'effet d'une bombe. C'est-à-dire, c'est absolument scandaleux. Je peux vous en donner quelques-uns. 84% des théâtres cofinancés par l'État sont dirigés par des hommes. 89% des institutions musicales sont dirigées par des hommes. 85% des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes. 86% des établissements d'enseignement artistique sont dirigés par des hommes. Et on s'aperçoit que ces chiffres, dans un milieu que l'on pensait exemplaire, avant-gardiste, plutôt de gauche et bien-pensant, est en retard. Et même ces chiffres sont... Mais en retard même sur ceux de l'armée. Enfin, je suis un peu rude avec l'armée, mais
plus de femmes dans l'armée.
Mais comme disait tout à l'heure, j'entendais, il y a 1000 spectacles à Avignon, c'est mieux que 1000 tanks. De toute façon, on a le droit de produire beaucoup. Et bon, disons que en partie, donc il y a ces directions, ces postes de direction de représentation, et ensuite il y a l'argent public. C'est-à-dire où va l'argent? Et parce qu'on parle du secteur subventionné, et on se rend compte, par exemple, pareil dans ce même rapport, que quand dans les centres dramatiques nationaux, les centres dramatiques régionaux, il y a une subvention, si le coût moyen d'un montage de spectacle était de 72 000 euros, quand le spectacle était mis en scène par un homme, c'était de 77 271 euros. Quand le spectacle était mis en scène par une femme, le coût moyen s'élevait à 43 791 euros.
Attendez, ça veut dire que la femme dépense moins ou qu'on donne plus d'argent aux hommes?
C'est complexe. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la question, elle est... On accorde moins aux femmes porteuses de projets, à la fois parce qu'elles ont des projets parfois qui ont eu du mal à se monter et qui peuvent être moins chers.
Ils sont plus modestes.
Et par ailleurs, nous avons donc des choses absolument incroyables, qui est que souvent, la femme porteuse de projet est montée dans la petite salle de la colline, mais pas dans la grande, ou jamais dans la... À Avignon, nous sommes à Avignon. Il n'y a eu qu'Ariane Mouchkine qui a été montée en 60 ans de festival à Avignon, dans la cour d'honneur.
Dans la cour d'honneur,
voilà.
Oui.
Ça, c'est des choses importantes.
Pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Geneviève Frest, là, sur cet édito qui vous a un peu fâché, dans,
et
même beaucoup fâché, ce petit chapeau dans la terrasse, qu'est-ce que vous pensez? Par exemple, il y a eu un papier qui avait été fait dans Télérama il y a un peu moins d'un an, sur justement la place des femmes dans la création. Et les femmes, et notamment des femmes comme Célie Pote, qui sont des metteurs en scène brillantes, qui sont programmées effectivement dans la petite salle de la colline pour l'instant, dit que quand elle met en scène Einar Müller ou Thomas Bernhard, elle le met sans doute en scène avec sa spécificité féminine, et qu'elle gratte chez Thomas Bernhard ou chez Einar Müller quelque chose qui n'est pas approché par les hommes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est susceptible de vous énerver?
Non, mais ça m'est complètement... Non, ça, je veux dire, toute femme créatrice, que ce soit en philosophie, en littérature, a le droit de porter le regard sur sa production qui est le sien. Moi-même, je ne serais pas qualifiée mon propre travail. D'ailleurs, ça m'est assez égal, je veux dire. Mais ça, c'est mon propre... Ce qui m'importe, ça serait plutôt de voir comment les mots sortent de mon... de moi-même. Donc je ne sais pas comment ils sortent et ce qu'ils sont.
Mais est-ce que ce n'est pas tendre des bâtons pour faire part que de dire il y a une part féminine de la création ou de la mise en scène?
Ça m'est complètement égal. Chacun est libre de qualifier son propre travail. Ça m'est complètement égal.
Myriam Merzouki.
J'ai l'impression qu'une des clés qui est assez pertinente pour analyser aujourd'hui le rapport de création entre hommes et femmes, avec une autre lueur que celle de son propre genre, c'est plutôt la manière dont on se positionne aussi par rapport au répertoire, par rapport à la tradition. Et je pense qu'il y a quelque chose qui, dans le théâtre de répertoire, qui a donné une place, on nous parlera évidemment toujours des grands rôles féminins, mais qui quand même a construit des types qui sont d'abord des types masculins, qui sont prétendument porteurs de l'universel, donc l'universel de la misanthropie, l'universalité du désir. Mais c'est vrai que moi, en tant que metteur en scène, je n'ai pas envie, bon, ça n'engage que moi, de monter Don Juan ou de monter le misanthrope pour l'instant, ou de monter Hamlet. Et je crois qu'une des positions des femmes dans l'institution aujourd'hui, c'est aussi pour des raisons qui seraient complexes à étudier, leur manière de s'engager dans des aventures théâtrales qui sont parfois aussi celles de ne pas venir éclairer de leur génie créateur solitaire un texte de répertoire. Il y a quelque chose qui est structurellement assez masculin dans cette manière des metteurs en scène hommes aujourd'hui de toujours vouloir et donc on va dire le X de Y, et on ne parlera pas forcément d'un texte inédit original, mais on va venir voir comment est-ce que le génie du metteur en scène va venir éclairer le génie de l'auteur. Et je crois qu'aujourd'hui, la question n'est donc pas tellement de savoir s'il y a une sensibilité féminine ou masculine, mais quelle est la part de risque que peuvent prendre les hommes et les femmes aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est la question du répertoire par répertoire, ce qui renvoie aussi à la question du pouvoir. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une incitation forte des tutelles à monter des spectacles qui vont peut-être plutôt fédérer le public autour d'un texte connu classique. Et je crois que cette question qui est à déplier et qui engage aussi bien la prise de risque des diffuseurs que les montages de production. Pour revenir à ce que disait May tout à l'heure, au sujet des plus faibles budgets de production, je pense qu'il y a un cercle vicieux qu'il faudrait interrompre. C'est-à-dire qu'à la fois, les femmes ont tendance à produire des projets qui, d'emblée, sont dans une sorte de monumentalité moindre, hein, c'est-à-dire des projets avec moins de comédiens sur scène, des équipes techniques moindres. Et puis, comme on les soutient moins, on prend moins le risque de leur faire confiance et donc de leur allouer des budgets de création conséquents, on aboutit à un cercle et à quelque chose qui se mord la queue. Et Ren Pratt, toujours dans ce rapport, disait quelque chose de très, très important. Dans le spectacle vivant, on a un travail collectif et il est question d'argent. Et à partir d'un moment assez visible, quand on a 40 000 euros ou 50 000 euros pour monter un spectacle, esthétiquement, on n'est pas au même endroit que lorsqu'on a 150 000 euros ou 200 000 euros pour le monter. Donc je pense qu'on peut parler de jouissance, mais il faut parler d'argent aussi.
Mais Bouada et ensuite Geneviève Fraisse. Mais...
Oui, je voulais revenir sur ce que Myriam disait à propos du patrimoine. Je pense qu'il y a la question du patrimoine et des représentations. Et il y a aussi la question du matrimoine, c'est-à-dire ce qui est intéressant aussi dans nos métiers, c'est-à-dire l'inconscient collectif. Quand même, il y a quelque chose qui est invisible dans le fait d'aller de toute éternité voir du Shakespeare, du Racine, du Molière, en prenant le Shakespeare, le Racine, le Molière comme la norme du grand auteur, et de ne pas aller voir, je veux dire, du Colette, du Duras, du Yourcenar, et qu'à chaque fois qu'on monte du Duras, on dit « Oh, c'est une femme, et c'est une œuvre au féminin, et qu'est-ce que la féminité de Duras va apporter de plus ?» Et je pense que, par exemple, dans les objectifs, les missions de notre mouvement, vraiment, une des revendications presque volontaristes se place aussi au niveau du symbolique. C'est-à-dire, quand on est dans un pays où 4% des rues sont des noms d'hommes, où toutes les listes du baccalauréat sont majoritairement des auteurs de théâtre masculins, quand à l'entrée au conservatoire, les textes obligatoires, pour 25 textes, il y a une seule femme qui est obligatoirement lisible, je vais dire... Là, on est dans des espaces qui, effectivement, rendent finalement totalement inconscient la part de réalité des créatrices. C'est-à-dire que je dis que, par exemple, je suis d'une génération, moi j'ai 40 ans, qui a été élevée dans la mixité, qui est arrivée à l'école mixte, j'ai fait mes études à égalité avec mes camarades, des études supérieures, j'ai fait des grandes écoles et tout ça. Et c'est seulement dans le milieu professionnel que mon regard s'est ouvert sur ces questions d'inégalité. Et par exemple, on a eu un chef dans ses missions, ne va pas prendre en charge, puisqu'on est un collectif essentiellement, donc il y a des créateurs, mais il y a aussi des administrateurs, des administratifs, des spectateurs, des spectatrices et tout ça. Et c'est essentiellement des bénévoles. Donc on alerte les tutelles en leur demandant de faire leur travail. On demande au ministère de la Culture de remettre des études en place. Et on a eu un partenariat assez tôt avec la SACD, la Société des auteurs dramatiques, qui nous soutient bien et qui a produit des chiffres, alors c'est un petit peu comme ça, mais les chiffres sont jolis à voir, sur qui étaient les femmes qui écrivaient à l'heure actuelle. Et on s'aperçoit qu'effectivement, un vivier pouvait être assez mince, entre guillemets, il y a quelques années. À l'heure actuelle, il y a 40% des femmes écrivaines parmi les adhérentes, enfin les sociétaires de SACD. Sauf que les textes ne sont pas mis en production. Parce que il y a tout un tas de petits rouages qui font qu'on ne les connaît pas. Donc, elles sont là.
Mais invisibles.
Oui. Donc ça, c'est un énorme travail.
Mais qu'elles soient là, ça paraît évident, mais qu'elles soient là, et qu'elles soient là au tout près des postes de direction, ça paraît tout aussi évident. Et qu'elle soit là aussi tout près des postes de création artistique, ça serait, ça aussi c'est évident. Je veux dire, Martha Leur ne serait pas Martha Leur sans sa numéro 2 Anna Vibroek. Christophe Warlikowski ne serait pas Warlikowski sans sa scénographe. Et il y en a un certain nombre comme ça qui n'avancent que par couple. Et le couple, c'est l'homme et la femme qui travaillent avec lui, sauf qu'elles sont effectivement invisibles. Geneviève Fraisse, on s'achemine alors, malheureusement vers la fin de cette émission et j'aimerais bien vous donner
je vais me redéplacer
la parole.
Un petit peu.
Oui, je voudrais écouter ce que vous avez à dire et quand même vous poser à vous cette question-là, dont je sais que c'est une question qui vous agace. Faut-il ou non introduire des quotas ?
Oui, alors j'avais envie de parler d'autre chose, mais non, mais j'ai déjà répondu tout à l'heure en disant que la parité était un instrument. C'est-à-dire les quotas et la parité, c'est la même chose. C'est-à-dire il faut un outil pour faire de l'égalité. J'ai déjà répondu tout à l'heure en disant qu'il faut de la contrainte. Mm. On ne fera pas d'égalité sans contrainte.
Donc il faut
sans
des quotas.
Volonté politique. Mais le mot quota, pour moi, n'a pas plus d'importance que le mot parité. Il faut de la contrainte politique, il faut de la volonté politique. Donc oui, il faut de la contrainte. Il n'y a pas d'égalité. L'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte. Alors j'en profite quand même pour revenir sur le débat de fond, parce que la question du féminin, du masculin, des auteurs, c'est une chose, mais la question du sujet femme dans les textes, c'est ça sur quoi j'avais envie d'intervenir. Warlikowski, quand il demande à Wajdi Mouawad de réintroduire des sujets féminins dans son dernier spectacle, quand il demande à Wajdi Mouawad d'écrire des textes où les femmes vont reprendre la parole, quand on va voir Se trouver de Pirandello, quand on va voir les spectacles d'Ibsen où il y a des femmes sujets, et quand moi après je lis les commentaires que me font à moi et à vous les metteurs en scène hommes en disant oui c'est critique de la société bourgeoise etc., qui ne voient même pas qui sont en train de mettre en scène des sujets subversifs qui ont des noms de femmes, moi là je boue évidemment parce qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'auteurs femmes. Il faut voir comment ces auteurs hommes ont été nous proposer ces sujets femmes. C'est dans Pirandello, c'est dans Ibsen, des sujets extraordinaires. Et j'ai des metteurs en scène qui vont faire des mises en scène qui peuvent être extraordinaires ou pas, mais qui après vont me donner des petits commentaires, dire c'est juste la critique de la société bourgeoise, et puis c'est juste pour vous dire ceci ou cela. Et non, pas du tout. Ces auteurs-là nous ont donné à voir et à entendre des creusets de lecture du 19e et du 20e siècle, où ce qui est dit là, c'est... il se trouve que je suis quand même une lectrice du 19e et du 20e siècle, et je suis en train de voir qu'on est en train de me raconter cette histoire-là, de l'émancipation des femmes.
Même si aujourd'hui, on aurait peut-être besoin de ne même plus raconter l'émancipation, mais de raconter l'histoire de femmes qui sont émancipées, et au fond,
mais
maisons
si vous
poupées,
voulez bien,
tout ça, c'est avant-hier
mais,
aussi.
Mais, moi, mais non, parce que c'est pas la question de l'histoire, c'est la question de l'enjeu structurel, de ce qui s'y joue, des contradictions. Donc c'est pas une histoire d'hier ou de demain, c'est pas une histoire de l'histoire, c'est de la structure de l'émancipation et de ses contradictions. Donc, c'est pas l'histoire de l'histoire. C'est la question de la structure. Désolée. Non.
Mais au fond...
Et donc, c'est l'affaire des sujets et c'est surtout l'affaire de... C'est ce qui s'échange là-dedans. C'est-à-dire c'est des lieux d'échange de l'émancipation. C'est pas une affaire de raconter, c'est pas l'affaire du récit. C'est l'affaire des enjeux de structure. Et je suis désolée, les metteurs en scène... en font simplement du drame bourgeois.
Oui. Mais c'est plutôt réjouissant, au fond, finalement, Geneviève Fraisse, ce que vous racontez, parce qu'on a, quand même le sentiment que c'est à leur insu même
oui,
que apparaissent ces sujets femmes. Est-ce qu'on peut, que ce
mais parce que les auteurs sont plus forts.
Mais bien sûr. Et que sans doute aussi les actrices amènent quelque chose
mais ça veut dire que
qui permet d'accomplir le geste.
Des sujets ont été écrits, oui. Y compris par des oui. auteurs hommes. Des sujets ont été donnés. Et quand Warlikowski demande cela aussi à un auteur contemporain, de réintroduire des sujets dans les pièces de Shakespeare... C'est de ça aussi dont il s'agit. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je n'ai pas besoin que ça soit de l'écriture féminine ou de l'écriture masculine. Je m'en fiche complètement. Je vois simplement que Warlikowski comprend bien que le sujet femme n'a pas été donné dans le texte de Shakespeare. Anyone can tell you there's no
more road to ride. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, c'est une femme que nous recevrons dans Changement de décor, Marie Raymond, auteure et metteur en scène de André, qu'on peut voir très bientôt au Théâtre du Rond-Point. Merci à toute l'équipe, Geneviève Méric pour la préparation de l'émission, Élise Leu à la prise de son à Avignon, Michel Mestre au mixage à Paris et Laetitia Coya qui cette année va assurer la réalisation de Changement de décor. Bienvenue à elle. Dans quelques instants, il sera 21h sur France Culture, l'heure de retrouver la fiction. Alive.
loves the fun, everyone comes by. In the wind I crunch, I want to die. They can give me pills or let me drink my fill. The heart wants to explode far away when nobody knows. Do you believe she said that? Do you believe she said that? I said I hate myself and I want to die. Is innocent, the other half is wise. The whole damn thing makes no sense. I wish I could tell you a lie. Hey, come here, let me whisper in your ear. Hey, myself and I want to die. Do you believe she said that?